avoir dans la tradition national-socialiste revisitée, évidemment, de manière moderne, avec des cultures ouvertes, comme il dit, en fait, ce qu'a été, je dirais, un des piliers de la montée du fascisme mussolinien et du nazisme hitlérien en Italie, en Allemagne, dans l'entre-deux-guerres.
Vive la France aux Français !
Tu dégages.
France 2, 3 mai 2011.
Tu dégages, tu fais de la provocation devant les journalistes. Tu n'es pas là pour servir la soupe à la presse de gauche.
C'était en 2006, devant les caméras, Karl Lang, l'un des dirigeants du FN, demande à des crânes rasés de quitter le défilé du 1er mai. Cette année, pour que la manifestation soit une réussite, Marine Le Pen a donné des instructions très claires à ses secrétaires départementaux. Elle a prévenu que tout ce qui ressemble de près ou de loin à un skinhead sera exclu manu militari. Enfin, il y a l'éviction des militants du FN pris en photo en train de faire le salut nazi. Alexandre Gabriac, conseiller régional, a été exclu par Marine Le Pen. La presse d'extrême droite dénonce une purge.
Elle est profondément dans son fond antifasciste, foncièrement bien pensante, foncièrement de gauche, je pense. Ouais. Et donc, je pense qu'elle a vraiment un rejet presque viscéral de tout ce qui est de droite ou de droite radicale.
Et pourtant, si Marine Le Pen a relooké l'héritage politique de son père, elle n'a pas abandonné pour autant la préférence nationale, thème majeur. Le FN semble en plus à l'abri d'une scission.
Putain, Marine Le Pen, oh non, Marine Le Pen, non mais tu ne crois pas, tu ne crois pas.
Je voudrais quand même utiliser mieux vos qualités d'historien, Dominique Vidal, parce que ce lien entre l'extrême droite et l'anticapitalisme qu'on a, qui se manifeste et qui s'exprime chez Marine Le Pen, que vous dites ne pas relever seulement de la simple démagogie, a une sorte de tradition dans l'histoire. Hein. Et ce serait bien qu'on comprenne que peut-être, pour nous évidemment, l'extrême droite égale le capitalisme, puisqu'on est contre l'extrême droite et contre le capitalisme. On met ces deux adversités ensemble. Je crois qu'on se trompe assez. Il est arrivé assez souvent dans l'histoire que l'extrême droite s'allie avec le camp anticapitaliste ou emprunte ses idées ou assume ses idées.
Je ne dirais pas ni s'allie, ni assume ses idées, ni reprend ses idées. Non, je dirais que l'extrême droite et notamment le national-socialisme, pour parler des années 30, ont su récupérer à leur profit la colère populaire que la gauche n'arrivait pas à incarner, du fait de sa division, dans laquelle les communistes allemands portent une responsabilité importante, mais aussi la social-démocratie allemande, on l'oublie. C'est quand même pas les communistes allemands qui ont assassiné Rosa Luxembourg ni Karl Liebknecht. C'est un gouvernement dont le ministre de l'Intérieur était social-démocrate. Disons que si on réfléchit sur les responsabilités à l'époque, elles sont pour le moins partagées entre communistes et sociaux-démocrates. Mais le fait est que la gauche n'était pas capable, dans la crise incomparable avec celle que nous vivons, qui était celle de l'Allemagne de l'époque, d'offrir une alternative à des millions de chômeurs. Et ce qui me fascine, j'ai sous les yeux deux graphiques. Un graphique qui est l'irrésistible ascension du Parti national socialiste d'Allemagne. Et à côté, j'ai le graphique de l'évolution du chômage. Ils sont quasiment parallèles. Ces deux graphiques sont parallèles. Mais dès qu'on fait les comparaisons historiques, on risque gros.
Comparaison n'est pas raison.
Comparaison n'est pas raison. Belle formule, mais plus précisément, nous ne sommes ni dans la même période, ni dans les mêmes pays. Donc, il faut tout de suite dire attention, avec trois points d'exclamation. La France est un vieil État-nation, avec des traditions démocratiques enracinées depuis la Révolution française et même avant, les Lumières. Alors que l'Allemagne est un État-nation récent, qui n'avait pas d'expérience démocratique avant la République de Weimar, juste après l'écrasement de la Révolution spartakiste en 1919. Deuxièmement, la crise, même si elle prend des proportions graves aujourd'hui, n'est pas comparable avec ce qu'était la crise en Allemagne, qui a fait tomber dans la misère des millions et des millions d'Allemands, et pas seulement des couches populaires, aussi des classes moyennes en masse. Et d'ailleurs, je le dis tout de suite, dans l'électorat d'Hitler, qui passe, pour mémoire, de 2,4% en 1924 à 37% et plus en 1932, les gros bataillons viennent des classes moyennes, ne viennent pas de l'électorat socialiste ou communiste. Donc, c'est pour dire, il faut faire bien attention quand on analyse. Je reviens